Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, le nombril de Vénus est en mode coup de cœur avec Clémentine et Jeannot. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, très bien.
Trop bien. Je vois que vous avez déployé pas mal de paperasses et surtout des ouvrages dans le studio. Vous allez tous les deux parler de BD, c'est bien ça ?
Exact, c'est ça.
Clémentine.
Alors, moi, je vais présenter une BD sur Diane Arbus, qui est une photographe new-yorkaise très connue du XXe siècle. Et c'est une BD écrite par Aurélie Wilmette, si je dis bien son nom. Et c'est aux éditions Casterman 2025.
Super. Et toi, Jeannot ?
Je vais parler d'une histoire vraie, qui est l'histoire des les Amants d'Hérouville. C'est un roman, c'est une bande dessinée, un roman graphique avec des photos intercalées, qui a été écrite par Yann Lekelec, qui est d'ailleurs un Rennais, et Romain Ronzo pour les illustrations. C'est paru en 2020 aux éditions Delcourt.
Pour ma part, elle est venue à Rennes il n'y a pas très longtemps, à l'occasion du festival Jardin d'hiver au Champ Libre. Donc c'était le début du mois de février. Mathilde Di Matteo, elle a écrit un premier roman qui s'appelle La Bonne Mère. Et je vais vous parler de ce roman très ensoleillé. On va partir un petit peu du côté de Marseille. On va aussi à Paris. On va même venir en Bretagne. La Bonne Mère est un livre qui est paru aux éditions L'Iconoclaste en 2025. Clémentine, je te laisse la main, tiens.
Eh ben, merci, Juliana. Donc, comme je disais, donc c'est une BD que je présente aujourd'hui sur l'histoire et la vie de la photographe Diane Arbus, qui est une artiste new-yorkaise photographe connue au milieu du XXe siècle. Elle a débuté sa carrière dans la mode, puis elle s'est tournée vers une pratique un peu plus personnelle, et c'est à ce moment-là qu'elle est plus reconnue par rapport à sa pratique personnelle, où elle photographiait des groupes marginalisés, donc des travestis, des personnes en situation de handicap, qui étaient à l'époque considérées comme des bêtes de foire, et elle voulait rendre visibles ces gens, montrer leur humanité. Et même, elle est devenue amie avec certaines personnes. Donc,
bah oui, c'était, ça n'exclut pas l'amitié.
Exactement, et donc du coup, c'était une manière aussi pour elle de montrer l'humanité des gens et puis de rencontrer les gens. Donc cette BD, je l'ai découverte parce que du coup, je pratique la photographie et j'ai envie de découvrir des photographes femmes parce qu'on voit beaucoup de photographes masculins et je trouve que c'est important de montrer des femmes photographes. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que les femmes photographes sont quand même globalement assez invisibilisées, surtout au XXe siècle, on ne connaît pas tant que ça. Et elle, justement, elle met en valeur des personnes qui sont également invisibilisées. Ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est aussi le travail de l'illustration. On est sur déjà une gamme de couleurs bleues, violettes. Et donc, on est vraiment sur une bichromie du début à la fin.
Un parti pris, quoi.
Ouais, c'est le parti pris. Et du coup, ça nous plonge un peu dans un côté mélancolique, mystérieux. Parce que ça parle de sa vie, ça parle de sa pratique de la photo. Ça parle aussi de son... Comment elle, en tant que femme, elle se percevait en tant que photographe féminine, est-ce qu'elle se sentait légitime ou pas. Donc ça parle un peu de tous ces sujets-là, et le traitement du dessin est aussi très très beau, sachant que la fin de sa vie est un peu dramatique parce qu'elle s'est suicidée. Donc elle a une... je pense que l'autrice a voulu aussi montrer ce côté un peu mélancolique qu'elle pouvait avoir.
Qui s'est suicidée, la photographe ou l'autrice?
Ah non, la photographe.
Ah oui, la photographe, parce que là, je me suis dit, bon, ouais, bah, si la BD est sortie.
Non, là. C'est la photographe qui s'est suicidée.
Il y avait un peu l'équivoque, non? Tu avais entendu que c'était la photographe
qui s'est
cassée? Ouais, bon, bah d'accord. Okay. Je me suis posé la question.
Ce que j'avais bien aimé, c'est justement, il y a un passage que j'aime bien où elle parle, puisqu'à l'époque, donc elle faisait de la photographie argentique. Et donc, il y a un passage que j'aime bien où elle parle de qu'est-ce que ça fait quand elle prend des photos, les émotions qu'elle ressent. Et aussi, après, elle parle du fait qu'elle fait du labo et qu'elle développe en chambre noire. Et donc, les sensations qu'elle ressent quand elle est en chambre noire. Donc, il y a un petit peu de texte, mais il y a aussi beaucoup d'images qui replongent un peu dans cette... dans ces moments-là qui sont un peu des moments hors du temps et que moi je pratique aussi personnellement. Du
coup, c'est ça, on te sent habité en fait, c'est un sujet pour toi.
Exactement. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette BD que j'ai trouvée hyper intéressante et même du coup découvrir son travail parce que je ne connaissais pas du tout la photographe à la base. Et donc du coup, ça m'a rendue curieuse aussi de découvrir son travail.
Mais comment cette BD est arrivée dans tes mains ?
Eh bien, j'ai une petite passion pour aller en librairie et regarder qu'est-ce qui sort assez souvent. Et donc, je suis tombée sur cette BD dans une petite librairie. Et en fait, ce qui m'a attirée déjà, c'est les couleurs de loin. J'étais très attirée par les couleurs. En plus, on est sur...
Pourtant, ce sont des couleurs froides.
Oui, mais assez pétantes quand même. Et en plus, le livre est sur... la couverture, elle est un peu... c'est un peu comme brodée. C'est une couverture dure. Donc, il y a un toucher, il y a du relief. Donc du coup tout ce rapport là j'aime beaucoup, même le papier il a une texture un petit peu particulière.
Mm-hmm. Enfin, il y a du grain quoi.
Ouais, c'est ça.
Comme la photo.
Exactement. il y a vraiment un lien que j'ai trouvé hyper intéressant et du coup j'ai feuilleté et je me suis dit un jour il va finir dans ma bibliothèque et j'ai craqué.
La découverte de cette photographe, est-ce que pour toi c'est très enrichissant en tant que photographe? Est-ce qu'il y a une acquaintance avec ce que tu aimes aussi ou est-ce que tu es dans quelque chose de complètement différent?
Ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'elle fait pas mal de portraits un petit peu de rue et donc justement elle rencontre des gens qu'elle interpelle un peu dans la rue. Et donc ça, moi c'est un truc que j'aimerais bien développer mais que je trouve pas évident de faire de la photographie de rue parce qu'on a un peu l'impression de prendre les gens à leur insu, etc. Et donc c'est pour ça que j'avais envie
ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux, exactement. Mais,
mais on le demande gentiment.
Oui,
il y a
exactement.
Tout un truc, en fait.
Et c'est ça qu'elle le fait dans son livre, c'est qu'elle pose la question, qu'elle demande aussi le fait qu'à un moment elle explique que en fait elle devient très connue à un moment donné parce qu'elle fait une exposition. Et en fait lors de cette exposition, on pourrait se dire c'est un petit peu le graal d'un photographe de faire une exposition et elle a confiance en sa série. Et en fait on sent qu'elle est pas si confiante que ça et donc je trouve ça aussi rassurant de se dire que des gens qui exposent ou des gens qui sont finalement assez reconnus dans le milieu sont pas si confiants en eux et pour eux c'est quand même quelque chose de fort de montrer leurs photos où elle se disait, à un moment elle le dit dans son livre, que est-ce que ces photographies sont suffisamment à la hauteur. Et donc je trouve que c'est vraiment des questionnements en tant que photographe que je me pose très souvent. Et donc du coup je trouvais ça assez intéressant et du coup ça pousse à se dire bon il faut aussi montrer ces images, c'est important de montrer ces images aux autres et c'est l'intérêt aussi des expositions.
La légitimité, hein. On revient souvent sur ce sujet, notamment sur les voix féminines. Va savoir pourquoi, n'est-ce pas? Mais alors une petite question, Journaud, si jamais Clémentine, autant que photographe, t'arrête dans la rue? Imaginons, tu ne la connais pas, elle a son appareil photo, elle t'arrête, elle te demande de te photographier. Ça serait quoi ta réaction?
Oh, je peux dire oui.
Ah, sympa, tu vois Clémentine.
Et comme quoi, il faut que je m'y mette. Hein.
Eh bien, et cette autrice de BD, tu la connaissais déjà ou pas?
Non, je ne connaissais pas du tout son travail. J'ai un peu regardé ce qu'elle a fait à côté, mais je n'ai pas encore lu ses autres livres. Mais c'est plutôt des livres qui ne sont pas forcément sur des artistes ou c'est plutôt des histoires, mais elle a un traitement aussi graphique très particulier, donc je pense que c'est plus ça qu'on ressent dedans, dans les autres livres, de ce que j'ai vu globalement.
Gimme, gimme! This morning.
Les Amants d'Hérouville, c'est un roman graphique écrit par Yann Lequellec, qui est rennais, et Romain Ronzeau pour l'illustration. Il nous raconte la fabuleuse histoire de Michel Magne et de Marie-Claude, sa baby-sitter, la baby-sitter de ses enfants, qu'il rencontra alors qu'elle faisait du stop et qu'il épousa. Elle reste le principal témoin de cette histoire. C'est surtout l'histoire du château d'Hérouville, un ancien relais de poste construit en 1740, ayant abrité notamment les amours de Frédéric Chopin et de Georges Sand.
Waouh !
Rien que ça. Et le compositeur de musique, Michel Magne, a notamment écrit les musiques des Tontons Flingueurs, le film Les Tontons Flingueurs, Mélodie en sous-sol, Fantomas. Il achète ce château en 1962. L'endroit est, quelques années plus tard, ravagé par un incendie qui cause la perte de tous les enregistrements et partitions de Michel Magne. Il en fait, après avoir reconstruit et rénové, un studio d'enregistrement et un lieu de résidence, le premier de ce genre. Le pari fou étant de faire venir les plus grands artistes pour enregistrer à cet endroit. Il y a eu David Bowie, Pink Floyd, T-Rex, Nina Hagen, Jacques Higelin, Elton John, les Bee Gees. Ils étaient tous conquis par l'accueil gastronomique et la cave. Il y avait une cave magnifique dans cet endroit. Et les conditions de vie séduisaient les artistes, ainsi que la qualité du son, qui était due au bois de construction des pièces. Du très vieux bois, visiblement. Les avantages fiscaux également attiraient les anglo-saxons qui, hors de leur territoire pendant 6 mois, ne payaient pas d'impôts. Les Rolling Stones, notamment, étaient venus parce qu'ils voulaient enregistrer là et ils étaient intéressés de ne pas payer d'impôts. Bagne avait investi beaucoup d'argent dans ce projet. La première fois qu'il y avait des grands artistes à venir, c'était le Grateful Dead qui a fait... Il y avait eu un festival dans la région qui était annulé, parce que en fait le château est dans le Vexin, pas très loin de Paris. Et le Grateful Dead devait jouer un festival qui a été annulé pour intempéries, c'était en 1970. Donc ils sont venus jouer au château. Et ce jour-là, notamment, ils avaient eu la très bonne idée de mettre du LSD dans les ponches et dans le vin. Et les paysans et les villageois des alentours étaient à fond sur le concert. Et ça a donné des scènes mythiques, apparemment.
Il n'y avait pas un photographe
Non, je ne crois pas que ça a été photographié. Mais Magne était,
ouais.
était un ami de Françoise Sagan, de Boris Vian. C'était un grand provocateur. Il avait fait une soirée à la salle Gaveau, notamment, où il passa des infrasons. Alors je crois qu'il avait il a fait ça exprès, qui avait mis les gens dans des états physiques de souffrance incroyable, notamment souffrance intestinale.
Wow.
Il empêchait les gens de sortir de la salle. Et, par contre, il y avait des gens qui montaient sur la scène en criant au génie. alors ensuite, Magne a été victime de profiteurs, de parasites, parce qu'il avait une très mauvaise gestion. Il y a beaucoup de gens qui venaient se greffer à ce projet-là, qui profitaient de sa générosité. Alors il fut expulsé du château, et il ne s'en remettra pas. Il se suicidera dans un hôtel proche, à 54 ans. En 1985, le studio ferme ses portes. Le lieu devient en 2016 un centre de formation au métier du son. Donc c'est un beau livre, bande dessinée, où s'intercalent des photos, des témoignages de Marie-Claude, qui était donc l'épouse de Michel Magne, qui est toujours de ce monde. Elle a bien volontairement témoigné de tous ces faits. À noter que l'ouvrage se termine par des postfaces de Costa Gavras, Sampé et Bill Wyman, le bassiste des Rolling Stones. C'est une belle aventure dans la grande histoire du rock'n'roll.
Mais notre auteur local, qu'est-ce qui lui a poussé à écrire cette BD? Est-ce qu'on sait un peu? Est-ce que tu t'es renseigné là-dessus?
C'est une histoire qui a défrayé la chronique. C'est une histoire qui est assez connue. Parce que Magne a fait des très grandes musiques de films. Et le fait que tous ces grands artistes... Il y a une liste qu'on trouve dans le livre. Hein, il y a une liste incroyable d'artistes qui sont venus enregistrer. Hein. Les Bee Gees, notamment, ont enregistré là. Saturday Night Fever, sur lequel tout le monde dansait en 77. Ils ont enregistré là. C'est quand même... C'est une histoire assez connue. Et Magne était un personnage... Qui a fini tristement, mais c'était un sacré personnage.
Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans cette BD ?
Ah bah c'est le fait d'avoir toutes ces stars, là, toutes ces histoires de...
Oui, et le dessin, en fait, comment tu le qualifierais ?
Le dessin, moi, je suis plus ligne claire, donc là, c'est pas du tout ça. Mais le dessin est sympa. Et il y a également, justement, outre les dessins, il y a des photos.
Ouais, il y a pas mal de textes aussi.
Ouais,
hein.
Des affiches de films, oui, il y a du texte. Hein,
Roman graphique, quoi.
Voilà, c'est un roman graphique. Il y a plein de photos. On le voit en
et encore, est-ce que c'est vraiment un roman ? Parce que ça a l'air d'être un récit, quoi. Enfin, presque. Non, ça doit être un peu romancé, quand même.
Alors, je pense pas, c'est l'histoire vraie. Hein, mais on y voit beaucoup de célébrités. Hein, Rolling Stone, François
Mais Chabon, alors, est-ce qu'il y a... Parce que là, tu nous as parlé de cette scène dans la salle avec l'infrasson, avec les gens. Est-ce qu'il a dessiné ça ?
Ah bah oui, ils en parlent.
Et ça se finit mal
Bah disons que les gens étaient dans un état... Il avait un frère, Mine avait un frère qui était rugbyman, donc il avait prémédité de son coup parce qu'il a demandé à son frère de fermer les portes et de ne pas ouvrir. Et les gens étaient dans des états de souffrance parce que les infrasons leur donnaient notamment des maux d'intestin.
Oui, mais voilà, est-ce qu'ils ne les ont pas fait dans leur frotte ça. Donc...
Il a expliqué que les gens se vidaient dans la salle Gaveau.
My God.
Et lui, ça le faisait bien marrer, je pense. Et par contre, il y avait des gens, des snobs sur la scène qui criaient au génie.
Ah ouais, carrément, ils étaient tous sur LSD. Donc. Tu vas nous lire la quatrième de couve.
Ouais. Alors, en juin 1970, Marie-Claude fait du stop. Une Porsche blanche s'arrête. À son bord, un homme vêtu de noir, Michel Magne. C'est le coup de foudre. Marie-Claude rejoint Michel dans son royaume du château d'Hérouville, où Bowie, Elton John, Johnny Hallyday et bien d'autres stars du monde entier se rassemblent dans un esprit de fête et de liberté. Mais le succès attise les convoitises. Derrière le conte de fées, la tragédie se profile. Ce roman vrai nous plonge au cœur de la pop culture des années 50 à 80 et révèle le destin inouï de Michel Magne, compositeur génial de musique de film et fondateur des légendaires studios d'Hérouville. Et donc on y voit, comme je disais tout à l'heure, des post-faces de Costa Gavras, Eddie Mitchell, Sampé et Bill Wyman. Il est vrai que c'est intéressant parce que on peut lire dans le livre là, que Michel Magne était vraiment un original qui n'était pas avare de farces. Il organisait des fêtes dans lesquelles il arrivait par la fenêtre. Enfin, c'était un drôle de plaisantin.
Ça me donne envie de le lire. Enfin, moi, je n'ai pas trop connu ces années-là. Donc, je trouve que ça ramène un peu dans le passé, dans les années un peu que ma génération aurait... Enfin, moi, je considère que beaucoup de gens de ma génération auraient un peu envie d'avoir vécu ces années-là, notamment pour la musique, pour les résidences, toutes ces choses-là où c'est différent aujourd'hui, je dirais. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un peu un retour au vintage, à l'argentique, au vinyle. Donc, ça me donne envie de le lire.
Ouais. Eh bien, c'était la chronique de Journaux pour le nombril de Vénus.
Oh,
bien, super cette chronique. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement tous les deux, hein, Clémentine et Jeannot, vous étiez super. Je prends la parole juste quelques instants parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, mais pour dire un mot quand même sur ce roman, La Bonne Mère, qui est paru aux éditions L'Iconoclaste, de Mathilda Di Matteo. Déjà, je voulais dire que pour un premier livre, vraiment, c'est assez bluffant parce qu'on le prend, on ne peut plus le lâcher. C'est la voix de deux personnages, la mère et la fille, Véro et Clara. Bon, Véro, c'est la maman. Elle est marseillaise, elle est cagole, elle est incroyable. Mais elle a du mal, en fait, à avoir une vraie connexion avec Clara parce que Clara, c'est complètement son opposé. C'est vraiment une jeune femme frêle, très intelligente, qui travaille comme une dingue et qui monte à Paris pour faire carrière. Donc, le contraire de sa mère, qui aime plutôt la paillette, les vernis à ongles, l'eau rosée à la plage et les gros mots. Mais il y a quelque chose qui les unit beaucoup aussi, ces deux femmes finalement, c'est leur fragilité et notamment face à la gente masculine. Parce que même si elles ont beaucoup de force et qui sont des personnages très attachants, le chemin qu'elles vont faire et qu'elles vont faire quasiment en même temps ensemble va quand même dévoiler une grande souffrance d'une et d'autre par rapport à l'amour, par rapport à leurs conditions de femme entre les hommes qui parfois les malmènent, même d'ailleurs beaucoup. Mais tout ça est très joyeux parce que d'une certaine manière, et c'est pour ça aussi que je voulais vous proposer ce livre, il est très ensoleillé, il parle beaucoup de Marseille et c'est très beau comment ça parle de Marseille, comment ça donne envie d'y aller, comment c'est chantant, on va dire. Et c'est aussi un livre solaire dans le sens où la mère et la fille, à un moment donné, vont quand même finir par se retrouver, se comprendre, voire même, pourquoi pas, faire un bout de chemin d'amitié ensemble. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai adoré ce livre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous souhaiter vraiment de le lire très fortement. Et je ne vais même pas vous demander ce que vous pensez de ce que je viens de dire parce qu'on n'a plus le temps.
C'est la fin de l'émission. Le nombril de Vénus sur Canal B.
Eh bien voilà, c'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus. J'étais hyper contente de partager ce moment avec vous. Merci Clémentine et Jeannot.
Merci, c'était trop chouette.
Bah ouais, vous allez revenir, hein. On est
bien
d'accord.
Bien sûr.
Ok, on vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt sur les ondes de Canal B. Allez, bisous, bye.
Au revoir.
Salut.
É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual. E num grande torneio de caráter internacional de Fórmula 1. Nosso brasileiro foi convidado pra participar na sua condição de campeão mundial.